Frères et sœurs, prenons place pour entendre un passage du livre de Jérémie que l'on trouve dans le Premier Testament. Je vous lirai les premiers versets de ce chapitre 32 du livre de Jérémie. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 18e année du règne de Nabuchodonosor. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Et le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en disant « Pourquoi prophétises-tu en ces termes ?» Ainsi parle l'Éternel, disait Jérémie, « Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. » Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux mains des Chaldéens, mais il sera bel et bien livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera et le verra face à face. Le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je le visite, oracle de l'Éternel. Si vous faites la guerre aux Chaldéens, vous n'aurez pas de succès. Jérémie dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici que Hanaméel, fils de ton oncle Shalum, va venir auprès de toi pour te dire « Achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » Et Hanaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison et il me dit « Achète mon champ qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit de propriété de rachat, achète-le. » Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Hanaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote, et je lui pesai l'argent, 17 sicles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai, je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'achat, celui qui était cacheté, avec l'acte et les clauses, ainsi que celui qui était ouvert, et je remis le contrat d'achat à Baruch, fils de Neria, fils de Massia, à la vue de Hanaméel, fils de mon oncle, à la vue des témoins qui avaient signé le contrat d'achat et à la vue de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai sous leurs yeux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces contrats, ce contrat d'achat, celui qui est cacheté, ce contrat qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants, louanges et prières pour chanter le cantique 172. Célébrons l'Éternel, aux strophes 1, 2 et 3. Dieu notre Père, dont la parole s'est inscrite dans notre chair en Jésus-Christ, qui illumine le monde et son histoire afin que l'homme puisse croire, avoir confiance, adhérer à un projet de vie, suscite en moi une réponse. Ouvre mon oreille à cette voix qui retentit. Aide-moi à garder mon cœur ouvert pour accueillir ton évangile. Chers frères et sœurs, à ceux qui voudraient que la religion vive isolée dans son monde intérieur, ce texte biblique offre une fin de non-recevoir en bonne et due forme. Ici, ni l'économie, puisqu'il s'agit d'acheter un champ, ni le politique, puisqu'il s'agit d'agir auprès du roi dans un contexte de guerre, ne sont relégués aux marges du texte. Certes, l'intervention du prophète Jérémie n'est pas tout à fait du goût du politique de l'époque, le roi Sédécias, roi de Juda, tant et si bien qu'il a mis Jérémie aux arrêts religieux. Ce prêtre de Anatote, qui est porteur de l'oracle divin, se retrouve embastillé dans la cour du roi. Mais Jérémie, bien qu'en prison, ne se laisse pas impressionner par l'intransigeance du roi et il va continuer son action prophétique. Et cela en achetant un champ. Et s'il achète ce champ, c'est pour des motifs religieux. C'est parce qu'il discerne dans cet achat une façon de concrétiser la volonté de Dieu. Jérémie va-t-il trop loin ? Enfreint-il le sacro-saint principe de laïcité ? Sort-il tout simplement de son champ de compétences ? Avant d'aborder les questions économiques et politiques à la lumière de ce chapitre du Premier Testament, il nous faut aborder la question de la délimitation du champ théologique. Après tout, un champ peut en cacher un autre. Le théologique doit-il être contenu dans la recherche de bons mots pour la foi afin d'émailler des célébrations qui se tiendraient une fois par semaine dans des lieux dédiés à l'expression du culte? Ou le théologique est-il autre chose? Ce chapitre de Jérémie, parce que nous le prenons au sérieux, montre que la religion entre en dialogue avec autre chose qu'elle-même. Quelle est dans ce cas la fonction de la religion ? Le théologien Paul Tillich se pose cette question précisément au début de son ouvrage « La théologie de la culture ». Il relève tout d'abord qu'il est courant de penser que la religion a une fonction morale, mais c'est déjà le rôle de l'éthique. La religion ne sert donc pas, selon les termes du théologien Paul Tillich, à former de bons citoyens, de bons maris, de bons enfants, de bons employés. Deuxième hypothèse, la religion aurait une fonction cognitive. La religion, c'est ce qui permet d'accéder au savoir, à la connaissance. Mais le fait est que les sciences sont bien meilleures que la théologie pour savoir comment le monde fonctionne. Troisième hypothèse qu'explore Paul Tillich, c'est la fonction esthétique. Peut-être la religion est-elle à l'origine du mouvement artistique. Peut-être la religion permet-elle la création artistique. Mais, déclare Paul Tillich, parce qu'elle a quand même un rapport avec la morale et avec la connaissance, la religion ne peut pas être simplement ce vecteur qui conduit à la création artistique. Quatrième hypothèse, la religion serait un sentiment. C'est d'ailleurs ce que proposent certains qui voudraient que le religieux soit confiné à la stricte intimité de l'individu, la religion du fort intérieur qui n'a rien à dire à l'extérieur. Mais dans ce cas, elle n'aurait plus aucun lien avec la vérité, avec le sens des choses. Alors, le théologien Paul Tillich, constatant que finalement il ne trouve aucun lieu pour la théologie, aucun lieu pour la religion, en vient à conclure que le théologique n'a pas besoin d'un lieu, d'un département à l'université à côté des autres disciplines. Et il ajoute, la religion est partout chez elle, c'est-à-dire dans la profondeur de toutes les fonctions de la vie spirituelle de l'homme. La religion est l'aspect de profondeur de l'esprit humain dans sa totalité. Et Paul Tillich utilise aussi le mot « sérieux ». La religion, c'est ce qui permet le sérieux. La religion, c'est le fait de prendre la morale au sérieux, c'est prendre la connaissance au sérieux, au point d'avoir un désir passionné pour la réalité ultime. Ou encore, c'est prendre au sérieux la création artistique pour pousser à l'infini l'expression du sens ultime des choses. Je vous propose de vérifier cela dans notre texte biblique, en voyant de quelle manière la religion, le religieux, le théologique, entre en discussion avec l'économique et le politique. Parce que acheter, c'est de l'économie. Alors bien sûr, la Bible n'est pas un traité d'économie, mais elle traite d'économie, parce qu'elle prend la vie quotidienne au sérieux, et donc l'économie qui en est l'un de ses aspects. La Bible ne propose pas un modèle économique. La Bible n'est ni plus libérale, ni plus conservatrice que ce que les écoles autrichiennes ou autres peuvent proposer. La Bible ne propose pas un modèle économique, mais elle s'efforce de replacer l'économique à sa juste place, ni au-dessus de notre vie, comme une divinité, ni en dehors de notre considération, comme l'œuvre du diable. Que dit notre texte ? Tout d'abord, le contexte. Nous sommes dans un cadre de crise majeure. Dans ce genre de situation où l'ennemi est à nos portes et qui peut conduire à avoir cette furieuse envie de protéger notre argent, de protéger nos biens, de le mettre en lieu sûr, et avec Sédécias, ce serait d'utiliser les caisses de l'Égypte avec lesquelles il envisage de faire alliance. Les situations de crise sont rarement propices aux mouvements financiers, sauf ceux qui favorisent évidemment l'économie de guerre. Mais un temps de crise est rarement ce temps où l'activité économique pacifique fait floresse. D'ailleurs, il n'est qu'à regarder notre époque et regarder notre bonne ville de Paris pour constater qu'en dépit de taux d'intérêt extrêmement bas, historiquement bas, le marché de l'immobilier est comme mort. Si ce marché est comme figé sur place, c'est pour deux bonnes ou mauvaises raisons à voir. La première, c'est que les banques hésitent à prêter, parce qu'elles ont peur. Peur de ne pas être remboursées par les emprunteurs. Et puis la seconde raison, c'est qu'en l'absence d'acheteurs, les prix devraient baisser. Mais si les prix baissent, ça signifie que les vendeurs perdent de l'argent. Et les vendeurs n'ont pas envie de perdre de l'argent sur les investissements qu'ils ont faits pour gagner de l'argent. Ce qui conduit au fait que, les prix ne baissant pas, les biens immobiliers se vendent difficilement. Beaucoup préfèrent garder leur argent disponible en cas de besoin pour amortir les coups durs. Et cela a pour conséquence de bloquer l'économie, puisque l'argent n'est plus investi dans des entreprises, dans la recherche, dans l'éducation, dans la solidarité. L'argent est comme enterré. La caisse d'épargne est comme ce lieu où on enterre l'argent, à la manière de la parabole des talents, par peur de le perdre. Et du coup, cela conduit à un résultat paradoxal, qui est d'ailleurs le résultat de la parabole des talents. En voulant sauver son argent, on le perd. L'argent est perdu puisqu'il ne sert à rien. En tous les cas, pas au développement des conditions de vie. Paul Krugman, professeur à Princeton, raconte ce qui est arrivé au Congrès des États-Unis dans les années 70. 150 couples travaillant pour le Congrès avaient eu l'idée de créer une coopérative pour la garde des enfants. Ils avaient donc constitué un groupe qui permettrait d'échanger les services pour pouvoir sortir le soir sans avoir à se demander comment on ferait pour garder les enfants. Chaque couple avait reçu 20 tickets, chaque ticket ayant une valeur de 30 minutes de garde. Alors, si vous vouliez sortir le soir, vous faisiez appel à l'un des couples de la coopérative et vous lui remettiez le nombre de tickets correspondant au temps passé. Cela devait permettre un échange équilibré. Mais au bout d'un moment, les couples ont commencé à être inquiets de ne plus avoir suffisamment de tickets pour le cas où ils voudraient avoir quelques sorties successives. Et du coup, ils ont stocké leurs tickets dans les tiroirs. Si bien que les tickets en circulation se sont raréfiés et sont devenus inférieurs au nombre de tickets mis en réserve. De moins en moins de personnes faisaient appel à un babysitter par peur de ne plus avoir assez de tickets ensuite. La coopérative est tombée en récession économique. Jérémie, dans notre texte, n'envisage pas d'avoir recours à la planche à billets, ce qu'avaient fait les membres de la coopérative en remettant d'autres tickets en circulation. Il envisage une autre solution pour sortir la société dans laquelle il vit du marasme économique. Il engage ses fonds pour l'achat d'un terrain. Et par ce geste, il indique que l'économique sert à rendre possible ce qui est nécessaire. Il rappelle que l'économique est au service des actions qui améliorent les conditions de vie et que ce n'est pas la vie qui est au service de l'économique. Il ne s'agit pas de vivre la peur au ventre à se demander si on va gagner encore un peu plus d'argent ou, en cas de crise, si on ne va pas trop en perdre. Il s'agit de vivre ses engagements et de rendre possible ce qui est juste. Il est juste de ne pas laisser ce champ en déshérence. Alors, Jérémie rachète ce champ. Au passage, je vous indique que le terme hébreu sous-jacent à ce rachat, c'est la geoula, un terme que l'on utilise aussi pour la rédemption. Racheter, c'est la rédemption. Eh bien, Jérémie entreprend une rédemption d'Israël en investissant l'économique de sens. Il ne disqualifie pas la finance, bien au contraire. D'ailleurs, on a le détail de la transaction. Il remet à sa juste place cette finance et il lui restitue sa fonction première, financer les projets qui profitent aux personnes, aux communautés, en augmentant leur capacité d'existence. Eh bien, la théologie, avec Jérémie, pose que les critères de rentabilité ne sont pas plus de profits financiers, mais plus d'humanité. Autrement dit, en l'espèce, la religion opère la rédemption de l'économique en le sortant de ce cercle vicieux où mène le fait de considérer que ce sont les gains qui doivent mener la danse. À chaque fois que c'est le cas, lorsque le profit est la divinité à laquelle on sacrifie tout, ce qu'on sacrifie le plus, c'est sa liberté. Comme le disait notre cher Théodore Monod, ce sont nos possessions qui nous possèdent. C'était le cas dans l'exemple de la coopérative de babysitting. C'est le cas avec Jérémy, qui est plus libre en prison que ne l'est le roi Sédécias. Pourquoi ? Parce qu'il a fait de la théologie et qu'il a donc désacralisé l'argent. J'en viens maintenant au deuxième aspect, le politique. Proférer au roi un message de la part de l'Éternel est un acte politique. Aujourd'hui, on dirait que c'est le travail classique du lobbyiste qui intervient auprès du responsable politique pour infléchir ses décisions. Ici, la Bible évoque en termes positifs ce rapport entre religion et politique que certains estiment contre nature. Eh bien, moi aussi, je trouve que ces rapports sont salutaires, comme l'est la Géoula, la rédemption, le rachat qui sauve l'avenir. Là encore, le théologique peut aider le politique à occuper sa place, à la fois en redevenant l'exercice du service auprès des concitoyens et en étant la mise en forme d'une espérance qui conduit d'une génération à une autre sans faire de victimes. La politique, c'est censé être cela, conduire d'une génération à une autre sans faire de victimes. Et ici, ce champ se transmet de la génération de l'oncle jusqu'à la génération du fils et du neveu. Un espace de vie se transmet d'une génération à l'autre, sans heurts. Acheter un champ à l'époque de Jérémie, il faut comprendre ce que cela signifie. C'est poser que ce qui est juste ne passe jamais après les décisions de circonstances. Nous l'avons suffisamment entendu avec l'oracle, Jérusalem est sur le point de tomber. Eh bien, c'est le bon moment pour acheter un champ. Non pas parce qu'on va pouvoir spéculer dessus après, mais parce que ce champ doit être préservé. Racheter le champ de l'oncle, c'est assumer ses responsabilités personnelles. Et cela, en tout cas, dans la perspective hébraïque. Et c'est assumer que le champ de Shalom reste disponible. Le champ de Shalom. Shalom. Variation du mot Shalom. La paix. Jérémie rachète le champ de la paix. Et cela pour que la paix ait un avenir. Ce qui n'est pas tout à fait rien quand on y pense. Dans les circonstances de cette histoire qui n'a rien d'historique, mais qui donne à penser, ce qui permet de donner de la profondeur aux politiques, mieux aurait valu fuir cette terre, quitter sa terre, sauver les meubles, sauver son argent. Mais le geste prophétique, c'est de rappeler que les choix politiques doivent se faire face à l'ultime, et non en fonction des circonstances passagères. Si tu veux la paix, alors acquiers la paix. Rachète le champ de la paix pour y bâtir une nouvelle terre où ce seront bien le lait et le miel qui couleront plutôt que la bile et le sang. Si tu veux la paix, prépare la paix. Mais nous ne pouvons pas arrêter là notre lecture, car ce serait courir le risque d'une lecture littérale, qui consiste à reproduire l'identique les recettes du passé. Il ne suffit pas d'acheter un champ pour que la paix advienne. D'ailleurs, il se peut fort bien qu'il ne faille pas acheter un champ actuellement de nos jours lorsqu'on est à Mossoul, à Alep, à Gaza ou sur le territoire de Benjamin, ou encore en Ukraine. Le texte est là pour être interprété. Le texte est là pour nous engager à ne pas laisser les affaires du monde aux seules mains de ceux qui se prétendent être les seuls spécialistes autorisés. Parce que donner les pleins pouvoirs aux spécialistes, c'est inaugurer le règne du totalitarisme. Le siècle dernier en a été l'exemplaire laboratoire. Ici, Jérémie se dresse contre l'autoritarisme du roi Sédécias. pour lui rappeler qu'un mandat politique n'octroie pas l'infaillibilité et qu'il faut penser sa politique autrement que par les intérêts de caste, de corporation, de parti, d'ethnie ou tout autre intérêt particulier. Être porteur d'un oracle de l'éternel, c'est s'exposer à plus grand que ce que les clivages politiques offrent ordinairement. Alors, dans le contexte de Jérémie, contre le sauve-qui-peut du roi de Juda, Jérémie envisage de nouvelles alliances, des alliances proprement étonnantes pour le lecteur du XXIe siècle. Faire alliance avec Babylone, qui est pourtant considérée comme l'ennemi. Aujourd'hui, nous dirions Israël faisant alliance avec l'Irak, mais sans aller jusque-là. Nous pourrions dire avec les Palestiniens. Mais je disais, pas de lecture littérale. Peu importe qu'un prêtre de la tribu de Benjamin devienne prophète en Israël en disant que la volonté de Dieu est qu'Israël se lie à Babylone plutôt qu'avec l'Égypte. Ce texte est symbolique, comme l'est le champ, comme l'est l'achat du champ. Le rachat du champ n'est qu'un symbole de ces choix politiques qui honorent l'humanité en se faisant au regard de l'inconditionné, de ce qui est absolument juste, par-delà les intérêts personnels. Que Jérémie achète un champ dans le contexte qui est le sien peut donner quelques idées. Il peut donner l'idée à Martin Luther, à qui on demandait « Que ferais-tu si la fin du monde était pour demain ?» Martin Luther répondait « Eh bien, je planterais quand même un pommier. » C'est une manière de dire oui à ce monde. Mais Jérémie qui achète un champ peut aussi donner l'idée à des personnes de se marier, alors qu'une société de haine se fomente autour d'eux. C'est une manière de dire oui à l'amour. Que Jérémie achète un champ peut donner l'idée à des couples de faire venir un enfant au monde. C'est une manière de dire oui à la vie, en dépit du fait qu'on dise que c'est la crise et que les lendemains ne sont pas sûrs. Que Jérémie achète un champ peut donner l'idée à des personnes de demander le baptême ou professer leur foi. C'est une manière de dire oui à la paix dans un moment où les clivages font floresse. Un homme qui achète un champ donne un départ. Un homme qui sème donne un départ. Un homme qui engendre donne un départ. Un homme qui rassemble donne un départ. Et Jérémie, par son geste, donne un départ. Il amorce un mouvement qui pourrait débloquer la situation. Oh, l'histoire montre que ça n'aura pas arrangé les choses finalement. Mais a-t-il eu tort d'avoir raison ? Il n'y a pas de fatalité dans le bien. Il n'y a pas de fatalité dans l'Évangile. Mais nous ne serions pas chrétiens si nous n'appliquions pas l'Évangile dès lors que c'est possible. Mais cela se fait sans garantie de réussite, juste parce que c'est juste. Nous ne sommes pas dans la logique de l'équivalence. Nous ne faisons pas ceci parce que nous sommes sûrs de recevoir cela en échange. Nous faisons parce que c'est juste. C'est ça la grâce. C'est ça l'agapé. Jérémie, par son geste, replace chacun face au commencement, au départ, face au premier chapitre de la Bible, Genèse 1, qui inaugure inlassablement les conditions nécessaires et essentielles pour que la vie soit possible. Et chaque épisode, chaque étape de ce récit de création est marquée par un oui primordial, un oui originel. C'est cela que Jérémie fait entendre à nouveau dans le fracas de la guerre qui est sur le point d'éclater. Il essaie de stopper l'immobilisme du pouvoir pour qu'il cesse de camper sur ses positions comme une épitaphe sur son monument funéraire. À la fois, il annonce à quoi mènera la politique de Sédécias et il offre une alternative. Il inaugure un nouvel ordre du monde possible. Jérémie pose sur la table des négociations le sens dernier de ce que les uns et les autres entreprennent. Et c'est cela que permet la théologie. Elle nous permet d'apprécier le sens dernier de ce que nous faisons, de ce que nous laissons en l'état, de ce que nous achetons ou de ce que nous abandonnons. Le religieux n'est peut-être pas l'ultime recours en cas de problème, quand ça va mal. Mais le recours à l'ultime, lui, permet de sortir de bien des ornières, de bien des entêtements, de bien des bourbiers de l'histoire. Parce que la théologie se réfère à l'altérité, et que l'altérité permet de déplacer les centres de gravité, aussi bien les centres de gravité des personnes que des groupes, que des situations. Et que la théologie s'intéresse à l'économique et aux politiques est particulièrement utile. Parce qu'en s'intéressant à l'économique, la théologie permet ainsi de prendre au sérieux l'économique précisément, pour que nous soyons prêts à ce que ça nous coûte au nom de l'avenir. Et puis le fait que la théologie prenne au sérieux le politique, eh bien cela nous permet d'être prêts à agir de façon à faire un peu de place aussi bien à la vie qu'à la paix. Amen.